Session de philosophie sur la liberté par le Père Philippe à Saint-Jeudard, le 31 août 1988, 10e conférence.
Nous allons continuer cette petite enquête sur la liberté dans la Bible, la manière dont la révélation nous conduit à la liberté. Selon l'Écriture, on voit ce très grand texte que je ne vous ai pas cité la dernière fois et que je tiens à vous citer. C'est le grand texte où Dieu demande à Moïse de libérer son du joug du Pharaon. Donc il y a une théologie de la libération. On le sait aujourd'hui, mais c'est bon de l'avoir dans l'Écriture. C'est un passage très très beau. Il y a la vocation de Moïse. Chapitre 3 dans l'Exode. Je vous lis ce passage parce que c'est quand même c'est intéressant de voir comment Dieu voit ce mystère de la libération. On voit tout de suite, hein. Tombons pas dans une espèce d'univocité mauvaise. Comprenons toute la différence qu'il y a dans cette libération révélée et ce qu'on peut appeler la libération de l'âme par rapport au corps chez Platon. Pas tout à fait les mêmes époques, hein, Moïse et Platon. Moïse est beaucoup plus ancien. Donc l'Écriture est en avance par rapport à la philosophie. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas du tout la philosophie qui a commencé. Premier grand texte de la libération, c'est Exode chapitre 3. Donc il faut tout le temps y revenir. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Heureusement qu'il y a ce texte, parce que comme ça on sait que Moïse a un beau-père. On n'en parle pas beaucoup après, ni de l'épouse de Moïse. Raconte la manière dont Moïse l'a rencontré, toujours auprès du puits. Auprès du puits, ce sont les rencontres nuptiales, tout le temps. C'est pour ça que quand Jésus rencontre la Samaritaine au puits, c'est une rencontre nuptiale. Il faut bien voir. Il y a d'abord le serviteur d'Abraham. Qui, au puits, rencontre Rebecca. Puis, il y a Jacob. Qui, auprès du puits, rencontre Rachel. C'est le seul endroit où l'Écriture nous raconte un coup de foudre. Au point de vue de l'amour. C'est merveilleux. Jacob est tout de suite tombé amoureux. Il faut dire que le pauvre Jacob, hein, il en avait subi avant la colère d'Ésaü. Donc il avait une soif de rencontrer quelqu'un qui puisse le comprendre. C'est Rachel, la beauté de Rachel. Saint Thomas dit que la beauté et la disposition au mariage. Saint Thomas dit ça. Hein. C'est un des aspects de la beauté. Et puis Moïse, au puits, rencontre celle qui sera son épouse. Avec toutes les sœurs, mais il a choisi. Donc il a un beau-père. On a toujours un beau-père par ricochet, vous voyez. Il mena, oui, parce que c'est pas le beau-père qu'on choisit, n'est-ce pas ? Donc le beau-père n'est pas un acte de choix libre. C'est sûr. C'est celle qu'on choisit, mais comme elle a un père, selon les lois de la nature, il devient le beau-père. Et l'écriture est sensible à ça, hein. Faut pas croire du tout. Ça fait partie de ces aspects que l'écriture nous révèle. Il mena le troupeau par-delà le désert. Il arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda. Et voici que le buisson était brûlé par le feu. Mais le buisson n'était pas dévoré. Cette image du buisson qui a servi de symbolisme à des présences divines. C'est la présence. Le buisson était brûlé par le feu, mais le buisson n'était pas dévoré. La différence entre être brûlé et être dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle et la séduction. Pourquoi le buisson ne brûle pas ? L'étonnement, l'admiration. Il avait vu qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Me voici, dit-il. Alors il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il avait peur de regarder vers Dieu. Toujours la présence de Dieu donne peur à l'homme depuis le péché. Il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu sa clameur devant ses surveillants. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Hivites et les Yébousiens. C'est très curieux que ce lieu rassemble toute une série d'un carrefour. C'est le lieu d'un carrefour. C'est ça, la terre de Canaan. C'est pas une terre, il y avait, non, c'est toute une série. C'est voulu par Dieu. Et c'est là où le peuple d'Israël sera carrefour. Toujours un peu comme ça, le peuple d'Israël. Et maintenant, voici que la clameur des fils d'Israël est venue jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il le connaît très bien. Il a été élevé par lui. Il a toute la culture du Pharaon, Moïse, qui va être assumée par la révélation. Il fallait un législateur. Et le peuple des opprimés, qui étaient les Israélites, opprimés par les Égyptiens, ne pouvait pas être des législateurs. fait un homme libre. Et Moïse est un homme libre. Libre grâce au Pharaon. C'est très important pour nous, vous voyez, parce que quand aujourd'hui on parle de la pureté de la culture des Sémites, on a envie un tout petit peu de sourire. Parce que Dieu a choisi Moïse. Il savait très bien qu'il avait toute la culture de l'Égypte. Il n'a pas abandonné. Dieu n'a pas du tout demandé à Abraham. Dieu a demandé à Abraham de tout abandonner, mais pas à Moïse. Ça, c'est très curieux et c'est très intéressant. Dieu demande à certains d'assumer la culture, à d'autres de l'abandonner. Il ne faut pas être univoque. La foi d'Abraham réclame de quitter son pays, quitter sa maison, de quitter toute la grande culture d'Our, la Mésopotamie. Et Dieu demande à Moïse d'assumer la culture du Pharaon, la culture d'Égypte. Et ça fera partie du patrimoine sémite. Je crois que c'est très important de regarder Canaan comme la terre, un carrefour de toutes les civilisations. Et c'est ça que Dieu choisit pour être ce qui sera le plus capable d'être élevé au-delà. C'est très intéressant. On reviendra là-dessus à propos de la foi. Et la liberté dans la foi. Ici, je constate, dès le point de départ, puisque en Égypte, le peuple d'Israël n'est pas chez lui. C'est l'Exode. Il est esclave. Que suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe. C'est très important de voir que Dieu demande de sortir du joug du Pharaon pour pouvoir servir Dieu. Or, servir Dieu, c'est l'adoration. Moïse dit à Dieu, voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom? Ah, vous voyez, il a toute la culture de l'Égypte. Il demande le nom. Très joli, ça. Il ne veut pas être pris, au dépourvu. C'est le premier moment de la réflexion théologique. C'est pas la pure foi d'Abraham. Abraham n'a jamais demandé à Dieu son nom. Est-ce que c'est pas le propre du théologien de demander à Dieu son nom? Et la naissance de la théologie, je me demande si c'est pas là. Parce que c'est quand même un toupet extraordinaire. En présence de Dieu qui se donne à travers le buisson ardent, à travers ce feu, Dieu qui demande d'ôter les sandales. Et voilà que la tête pose la question. Il se déchausse, mais il n'enlève pas ses questions. C'est assez extraordinaire, ça. Que leur dirais-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. C'est très plus en plus impressionné par ça. De plus en plus. Dieu se présente. Je suis. Alors on a donné des tonnes d'interprétations. Parce que, vous comprenez, il faut avoir l'intelligence de Moïse pour comprendre ça. Le premier moment de la théologie, c'est de pouvoir recevoir le « je suis ». Vous êtes un théologien. Le croyant, il accepte de ne rien comprendre. Et Moïse réclame le nom de Dieu. Et « je suis ». Je pense, vous voyez, hein, je pense que chez Descartes, qui était croyant, il y a une réminiscence, cogito ergo sum. Mettez ça comme ça, hein. Ça vaut la peine, c'est intéressant. On ne le dit jamais, alors que ça me semble tellement évident. Et ceci est affirmé pour être le nom. Le nom, c'est la personne. C'est le substitut de la personne. Descartes, hein, très loin, très loin, très loin. Fera un tableau immense. Descartes dit cogito. Ergo sum. Le je suis Descartes. Je suis persuadé qu'il y a comme quelque chose. C'est un écho. Un écho. Je suis. Et de fait, si on va jusqu'au bout, la métaphysique, philosophie de ce qui est va s'achever à la compréhension du « je suis ». Qu'est-ce que nous sommes à la différence de la réalité extérieure « je suis ». On est capable de dire « je suis ». Et c'est par là qu'on exprime notre personne au niveau métaphysique. « Je suis ». Très impressionnant du reste. Et ça, c'est tout l'aspect de la philosophie contemporaine. Mais alors, le cogito ergo sum, il y a le ergo entre deux. C'est-à-dire, le suis est une conséquence. Alors que si on est en philosophie réaliste, on pourra dire que toute la recherche philosophique et métaphysique se termine à je suis. Si on fait de la métaphysique, et de la philosophie, c'est pour comprendre le sens plénier du « je suis ». C'est le « Dasein » de Heidegger. « Je suis oui. ». Aucune autre réalité que l'homme peut dire « je suis ». C'est le « je » qui absorbe l'être. C'est ça la personne. Je suis. Et alors ça nous fait comprendre la grandeur de cette affirmation de Dieu. Je suis. Et vous voyez comme c'est dit, hein? C'est dit à Moïse. Les Grecs n'étaient pas encore nés. Hein? Mettez en parallèle Parménide. Je mets les philosophes par en dessous. Très loin après, hein. Parménide, c'est la déesse qui dit « il est ». Et Dieu dit « je suis ». Et la philosophie contemporaine d'aujourd'hui permet au métaphysicien de terminer sa métaphysique par « je suis ». Il y a quand même quelque chose de très étonnant. Hein. Ça veut dire tout ce qu'on veut. Il y a quand même des liens souterrains. La foi n'est pas étrangère à l'intelligence. On verra ça demain. La foi n'est pas étrangère à l'intelligence. La foi mûrit l'intelligence. Et mûrit l'intelligence tout de suite par le sommet. Dieu qui dit « Je suis » à Moïse. Moïse qui assume toute l'Égypte, toute la culture de l'Égypte, et qui est capable de recevoir le « Je suis », qui est la personne de Dieu. Dieu qui se nomme « Je ». C'est le mot divin « Je suis ». Parménide, il est la déesse qui dit ça à Parménide. Bien plus après, hein. Voyez Moïse. Parménide, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Je crois qu'il faut être attentif à ça. Hein. Parce que quand même, tout ce problème de la liberté que nous cherchons, nous verrons que c'est lié fondamentalement à une vision du réalisme, donc de l'être. Et en dernier lieu, on verra au plan philosophique que la liberté est liée à la personne. Est-ce qu'il y a de plus philosophique que je peux dire sur la liberté, c'est à partir du « je suis ». Je suis une personne libre. Plus ou moins. Donc, quand Dieu dit « je suis », c'est tout le mystère de la personne divine qui est impliqué dedans. « Je suis » m'a envoyé vers vous. Il se présente en disant « Je suis qui je suis » pour bien montrer l'absolu du « je suis ». Je ne peux rien ajouter à « je suis ». Dieu n'ajoute rien à « je suis ». C'est pour ça qu'il dit « Je suis qui je suis ». C'est l'affirmation de la manière la plus absolue. Et quand on parlera de lui, on dira « je suis ». Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahvé, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom à jamais. C'est mon appellation de génération en génération. Le « je suis » égale « je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». C'est aussi très beau ça. Et c'est Dieu lui-même, selon l'Écriture, qui fait le lien. Le « je suis » résume le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est assez extraordinaire quand Dieu se met en référence à Abraham, le Dieu d'Abraham, sur les cartes de visite. Hein. Le Dieu d'Abraham. Vous savez, sur les cartes de visite, on met les références les meilleures. Et la meilleure référence de Dieu, c'est Abraham. C'est extraordinaire, ça. Tout ça, mais c'est étonnant. Dieu qui se définit, qui se met en référence avec Abraham. Avec Abraham, Isaac, Jacob, parce que ça c'est la petite trinité des pères. Hein? Des pères, des patriarches. Et Dieu est le Dieu des pères. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, les trois pères. Pour nous qui connaissons la révélation de la très sainte trinité, nous voyons dans les trois pères comme le reflet de la très sainte trinité. C'est sûr, Abraham, Isaac, c'est le fils chéri, d'où naît Jacob, la fécondité, l'Esprit Saint, une triple paternité dans l'unité. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est le je suis. Vous voyez ? Le Dieu dans l'immanence, le Dieu dans la transcendance. L'immanence. Le Dieu qui est présent aux générations. Il est présent aux générations. Il est présent à Abraham, le Dieu d'Abraham. Il est présent à Isaac. Il est présent à Jacob. C'est lui qui fait ce lien. Et la transcendance. Au-dessus de tout, je suis. Sans aucune autre référence. Le je divin absorbe tout. Il est tout. Tandis que là, l'immanence. C'est très beau, ça. Et de voir que la révélation, ça c'est très important, vous voyez, commence de l'immanence vers la transcendance. Alors que la pensée philosophique va de la transcendance vers l'immanence. C'est très très important ça, à bien saisir. Parce que Hegel, qui est un croyant au point de départ, Hegel veut aller de l'immanence à la transcendance, par la raison. Et quand on part de l'immanence, on ne rejoint jamais la transcendance. Découvrir quelque chose qui est autre que nous, donc qui nous transcende. Qu'est-ce que c'est que la transcendance ? C'est quelque chose qui est autre que nous. Tout être qui est autre que nous nous transcende. Parce qu'il est autre. C'est pour ça que Sartre dit que l'autre, c'est l'enfer. Parce qu'il n'accepte pas, il n'accepte que l'immanence. L'immanence pure. Et donc la transcendance, c'est ce qui vient limiter l'immanence. C'est l'enfer. C'est tellement intelligent l'écriture. Hein. Plus on la lit, plus on voit combien tout ça est d'une richesse. Point de vue de la révélation de Dieu par rapport à Moïse. Dieu d'Isaac, de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom à jamais. Oui, Dieu a deux noms. Je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est mon appellation de génération en génération. Et Dieu est présent dans la génération actuelle. Il est le Dieu des générations en génération. Alors, c'est la grande révélation de la libération. Dieu veut libérer son peuple du joug du Pharaon. Et il le fait en choisissant Moïse comme instrument. Moïse, sauvé des eaux. Et Moïse est le sauveur. Sauveur de son peuple. Alors, on sait... Ce serait très intéressant à regarder, vous savez, parce que cette libération que produit Moïse, elle ne s'est fait pas d'un seul coup. Il y a les 10 plaies d'Égypte. Le pharaon tient d'une manière extrêmement forte à la possession qu'il a. Du peuple d'Israël. Il faut les 10 plaies d'Égypte. C'est intéressant pour comprendre que la libération, c'est une œuvre qui réclame la libération divine, la toute puissance de Dieu. Et c'est la Pâque qui sera instituée par Moïse. C'est la Pâque qui sera 10e plaie d'Égypte. Et si on avait le temps, on étudierait de près les 10 plaies d'Égypte. Elles nous aideraient à comprendre ce que c'est que le mystère de la libération. Mais je ne le fais pas. Je regarde maintenant tout de suite. Vous voyez, on parle de la libération, on ne parle pas de liberté. On parle de libération pour faire passer le peuple d'Israël. C'est ça qu'il faut bien saisir. Faire passer le peuple d'Israël de l'esclavage du Pharaon au service de Dieu. On fait passer d'un service tyrannique à un autre service libérateur. Adoration. C'est ça la libération. On va tirer le peuple d'Israël de l'esclavage du Pharaon pour le mettre dans un service à l'égard de Dieu qui sera l'adoration. Donc vous avez deux espèces de services. Service libérateur. Et ça, c'est la grande révélation première. Le service libérateur se fait par l'adoration. De fait, je vous ai dit hier en terminant, l'ancienne alliance nous parle très peu de liberté. Il faut regarder le Nouveau Testament pour découvrir explicitement la liberté. Alors je vous renvoie à quelques textes que nous allons lire très rapidement. Les premiers, l'Épître aux Romains, 6, 15 et suivant, 8, 14 et suivant, Galates 4, 21. Alors je vous lis ces textes très vite, sans trop le gloser. Ça fait partie de cet enseignement de saint Paul dans l'Épître aux Romains sur la justification par la foi. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance par la justice. Oui, les deux services, le service tyrannique et le service libérateur. Mais grâce soit à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été remis. Libéré du péché, vous vous êtes asservi à la justice. Je m'exprime de façon tout humaine en raison de votre faiblesse charnelle. Car de même que vous avez présenté vos membres comme esclaves de l'impureté, il y a l'illégalité pour l'illégalité. Présentez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit avez-vous donc alors ? Des fruits dont maintenant vous avez honte, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit pour la sanctification. Et la fin, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. tandis que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, ce premier passage, c'est entièrement dans la lumière de la libération. C'est très intéressant, tu vois ça, bien noté. C'est entièrement dans la libération. Esclaves du Pharaon, en réalité, c'est les esclaves du péché. Et saint Jean reprendra ça. Esclaves du péché. Et on est libéré. Non, la libération conduit à la liberté, ce que je vous disais. Libéré en vue de la justice. Libéré par grâce. Ah, ça c'est très important. Cette liberté divine provient de la grâce. Le fondement, c'est la grâce. Alors que l'esclavage, c'est l'esclavage du péché. Premier lieu important à noter. Donc c'est 6, 15 et suivant. Maintenant je prends 8 dans la même épître. 8, 14 et suivant. L'épître aux Romains n'est pas commode, hein. C'est pour ça que je ne veux pas la gloser. Elle est difficile. Et c'est sur l'épître aux Romains qu'il y a eu les commentaires les plus douloureux. Alors 8, 14. Justification par la foi. Toujours la grande idée de saint Paul. La justification se fait par la foi. Donc la libération se fait par la foi. C'est la foi qui nous donne la liberté. Donc ça, on verra ça demain. Foi et liberté. Ainsi donc, frères, nous sommes redevables, non à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes du corps, vous vivrez. Tous ceux, en effet, qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création, en effet, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle garde l'espérance, parce que la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage, de la corruption, en vue de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La glorieuse liberté. Ça, le philosophe n'a jamais dit ça. C'est quand même très étonnant. Il faut essayer de comprendre. Nous sommes ici en face de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous vous souvenez de cette parole, hein, de saint Augustin ? Aime et fais ce que tu veux. Ça a été évidemment traduit de multiples manières. En réalité, quand, dans le contexte, vous voyez ce que dit saint Augustin, c'est que l'amour possède en lui-même ses propres exigences. Donc, sois fidèle à l'amour. C'est très important, cette affirmation ici, vous voyez, parce que elle nous fait comprendre ce qu'il y a de tout à fait nouveau, la grâce chrétienne donne la liberté. nommer au-delà du combat tout en restant dans le combat. Nous savons en effet que jusqu'à maintenant, toute la création gémit ensemble dans les douleurs de l'enfantement. Alors que, parce que la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage, de la corruption en vue de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous voyez que la liberté, la glorieuse liberté, devient une finalité. On tend vers cette glorieuse liberté. Je crois que c'est très très important de comprendre ça. Au point de vue surnaturel, au point de vue de la foi, la liberté glorieuse devient un absolu. Un absolu. C'est lié à la grâce, c'est lié à la foi, c'est lié à notre état d'enfant de Dieu. Alors vous comprenez tout de suite que la laïcisation de l'Écriture fait de la liberté non plus glorieuse, mais de la liberté liée à la néantisation en absolu. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'opposition. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, la liberté néantisation. Il faut mettre ça en parallèle. Elle n'est pas seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption, du rachat de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Mais voir ce qu'on espère, ce n'est pas espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec constance, avec patience. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même sollicite souverainement par des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs sait quels sont les désirs de l'Esprit, et que c'est selon Dieu qu'il sollicite en faveur des saints. Mettez ça en parallèle avec Épictète. Et vous voyez bien que saint Paul ne dit pas du tout que c'est lui qui va découvrir les volontés de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui, en nous, fait ce discernement. Ce qu'Épictète, évidemment, ne dit pas. C'est assez émouvant de voir ça en parallèle, vers l'an 50, après Jésus-Christ. L'Épître aux Romains, Épictète parle aux Romains, et aux sénateurs romains. Saint Paul parle moins aux sénateurs romains. Il parle au bon peuple romain. Tandis qu'Épictète parle souvent aux sénateurs. Bon. Voyons maintenant tout de suite ce troisième texte, Galates 4, 21 et suivant. C'est dans la fin des épîtres, n'est-ce pas, l'exhortation, ce qu'on appelle l'allégorie de Sarah et d'Agar. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante était né selon la chair, celui de la femme libre en raison de la promesse. Cela est une allégorie, car ces deux femmes, en effet, sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem présente, laquelle est bien esclave avec ses enfants. Mais à la Jérusalem d'en haut, mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate, éclame, toi qui ne connaissais pas les douleurs. Car plus nombreux sont les enfants de la délaissée que ceux de la femme qui a un mari. Pour vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, enfant de la promesse. Mais de même qu'alors, celui qui était né sous la chair persécutait celui qui était né sous l'esprit. Né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Cependant, que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'une servante, mais de la femme libre. C'est un texte très très beau, difficile aujourd'hui à appliquer, vous voyez, tout de suite. Mais il reste vrai, il est révélé. Mais il faut l'interpréter à bon escient. Et quand on peut, parce qu'il ne faut pas scandaliser les gens inutilement. C'est très beau, c'est très fort. L'Église, c'est la Jérusalem sainte. Et c'est la femme libre. Donc la liberté est donnée avec la grâce chrétienne. C'est pour la liberté, chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté, encore la finalité. Vous êtes sensible à ça. La liberté, glorieuse liberté, apparaît la finalité et c'est redit au chapitre 5. De l'épître aux Galates, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Oui, c'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je l'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer toute la loi. Vous, vous êtes exclus de Dieu, du Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, en effet, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. En Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni la circoncision, mais seulement la foi agissant par l'amour. La foi agissant par l'amour donne la liberté. Alors, on verra ça demain rapidement. Il y a un très grand texte dans Saint Jean. Très beau. Lisez-le et méditez-le. Saint Jean, chapitre 8. Ah, c'est un texte extraordinaire. Surtout quand on essaie de voir dans le contexte. Je crois que c'est le sommet de la lutte de Jésus face aux pharisiens. Le sommet de la lutte, c'est dans Jean. La réalisation de la lutte sera la croix, c'est sûr, mais c'est prophétisé, c'est annoncé. Et là, on voit cette lutte extraordinaire. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison à jamais. le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et là, libération, le fruit de la liberté. Vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole à moi n'a point d'accès en vous. Ce que moi j'ai vu auprès de mon père, je le dis. Et vous donc, ce que vous avez entendu de votre père, vous le faites. Ils répondirent en lui disant, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais non, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre père. Vous voyez, c'est la lutte en face de la paternité. Les deux paternités. Une paternité d'esclavage, une paternité de libération et de liberté. C'est très beau, tellement actuel tout ça. Ils répondirent et lui dirent, donc, oui, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre père. Ils dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous n'avons qu'un père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti. Et que j'arrive, car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi. Vous avez, vous, le diable pour père. C'est l'affirmation la plus forte. Jésus est dit pour dénoncer la mauvaise conscience, la mauvaise volonté. Vous avez, vous, le diable pour père, et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homicide dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me confondra à propos du péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me connaissez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs répondirent et lui dirent, n'avons-nous pas raison, nous, de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Et on se rejette la pire injure mutuellement. Jésus répondit, moi, je n'ai pas un démon, mais j'honore mon père, et vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Abraham, qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui te prétends-tu ? Jésus répondit, si c'est moi qui me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, c'est notre Dieu. Mais vous ne le connaissez pas, tandis que moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir, mon jour à moi. Il l'a vu, et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham parût, moi, je suis. Donc, de nouveau, la grande révélation de je suis de l'oreille. Avant qu'Abraham parût, moi, je suis. Ils prirent donc des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Vous voyez, je crois que ce très grand texte fait comprendre cette lutte entre ces deux paternités. La fausse, la tyrannique, qui existe tout le temps. Il faut les dépister, les paternités tyranniques. Parce que le démon a beaucoup de petits qui se cachent. La bête de la terre et la bête de la mer, selon l'Apocalypse. La bête de la mer, perversion d'intelligence.